La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, en Jésus, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous ici aujourd'hui dans ce lieu où nous allons célébrer un moment très important puisque nous allons avoir la joie de participer à un baptême. Et donc nous avons le futur baptisé qui est ici avec son grand frère et on est très heureux d'accueillir toute la famille. Bienvenue à vous tous ici. Si c'est la première fois que vous êtes ici chez vous, sachez-le. Et nous accueillons tout le monde ici sans distinction de conviction ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes ici à la maison. Voilà, je voulais redire ces mots d'accueil qui sont si importants dans les églises, de rappeler qu'on est toujours le bienvenu puisqu'on est accueilli au nom du Christ. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes ensemble ce matin à nouveau. Peut-être êtes-vous très loin, peut-être êtes-vous empêché de venir ici à l'Oratoire du Louvre ce matin, mais nous sommes ensemble par la communion fraternelle. Je vous invite à la prière et c'est Aurélien Péter aujourd'hui qui est avec nous à l'orgue et nous allons prier ensemble avant de chanter le premier spontané que vous trouverez au début de ces livres, les psautiers français. Vous avez toute la liturgie et tous les répons que nous allons chanter tout au long de ce culte. Nous prions ensemble. Père, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église. Permets que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de l'enfant qui va recevoir le signe de ta grâce. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Envoie ton Esprit Saint sur nous, Seigneur, et que nous soyons tous rassemblés dans la communion fraternelle. Je vous invite à chanter ensemble. Et nous nous levons. Et nous louons Dieu avec le psaume 103, psaume de David. Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes jours, mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt de reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le mériterions. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs. Elle commence à fleurir, puis sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours. Il durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. Le Seigneur a son siège dans le ciel, son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants, vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire, vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Chantons notre louange avec le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'Évangile, il est écrit que Jésus appela un enfant, il le plaça au milieu de ses disciples et il dit : Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même, dit le Seigneur. Que ces paroles nous accompagnent et nous rappellent la force de l'enfance dans notre foi. Je vous invite à chanter. Présentons au Seigneur tout ce qui peut nous séparer de lui, afin que toujours il puisse renouveler sa grâce sur nous. Seigneur, nous te présentons nos manquements, nos colères et nos jugements. Nous te présentons nos manques de foi en toi et en nos frères les hommes. Seigneur, nous te présentons nos incompréhensions, nos incapacités à aimer, car tu es le sauveur de tout homme qui se tourne vers toi. Tu es lumière dans les ténèbres. Tu te fais frère pour nous, présence humaine auprès de nous, pour témoigner de ta grâce. Seigneur, convertis-nous à ta grâce. Amen. Par l'entremise du prophète, le Seigneur rappelle qu'il nous fait grâce sans cesse. Avec ces mots, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voilà, je vais vous inviter à vous asseoir. Isabelle et Vladimir, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. Alors je vais vous inviter avec les parrains et marraines à venir me rejoindre. L'accueil aujourd'hui de cette église est un accueil de joie. Et je vais maintenant vous laisser partager avec nous votre confession de foi que vous avez écrite pour aujourd'hui et pour la partager avec cette communauté ce matin dans le cadre du baptême de votre fils. Vladimir et Isabelle, si vous voulez.
Je crois en Dieu, souffle absolu, créateur de toutes choses. Je crois en Dieu, source de vie. Je crois en Dieu tout-puissant, à l'origine de toute humanité. Je crois en Jésus, son prophète, en qui l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous. Dans l'adversité et la souffrance, il nous libère en nous rappelant l'humilité face à notre incompréhension. Vivant par son esprit, il nous anime, nous bouscule et nous guide sur le chemin de la tolérance, de la dignité, de l'amour et de la paix pour l'éternité.
Je crois en l'Église éternelle, connue de Dieu seul, qui existe par-delà les institutions et les frontières religieuses. Je crois en cette communauté de femmes et d'hommes en action venues de tous horizons qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur.
Je vais vous inviter à vous asseoir parce que je ne voudrais pas vous fatiguer trop. En revanche, vous restez ici debout avec moi. Voilà. Voilà. Venez, venez, approchez-vous. Voilà. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est long ça, hein? Je vais demander un verre d'eau à quelqu'un. Si je sais que vous ne venez pas avec votre verre d'eau, mais je pense que je vais en avoir besoin. J'irai pas jusqu'au bout, je crois. Alors, Isabelle et Vladimir, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui et qui l'appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui, c'est notre espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Mais ça, ce sera son affaire et sa liberté de recevoir tout ça dans sa vie. Il y a de l'eau ici, dans ce baptistère, qui est de l'eau tout à fait ordinaire, qui aurait pu servir à donner à boire à un ami, comme peut-être on va le faire maintenant pour moi, à laver les mains d'un enfant. Hein, Georges, on se lave les mains, surtout en ce moment. Hein. Mais là, ce n'est pas du gel hydroalcoolique, c'est de l'eau. Et qui aurait pu aussi servir à faire pousser les plantes. Il faut de l'eau pour faire pousser les plantes. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance, comme il est raconté dans l'évangile de Jean que nous entendrons tout à l'heure, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, frères et sœurs, notre baptême, pour ceux qui sont déjà baptisés, nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul, et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils sont trop petits pour le comprendre encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. J'invite l'Assemblée à se lever pour être témoin de ce baptême. Et maintenant, Théodore, ça va être à toi. Alors, Vladimir et Isabelle, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Théodore.
Voilà, et Théodore, ça veut dire cadeau de Dieu, ce qui est quand même pas rien. Alors je vais maintenant vous inviter à vous asseoir pour entendre les engagements qu'ont pris les parrains et marraines de Théodore à son égard. Voilà, je crois qu'ils veulent nous partager deux petits textes, dans l'ordre que vous voulez.
C'est avec une joie sincère que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Je remercie Isabelle et Vladimir de la confiance qu'ils me témoignent en me confiant le rôle de marraine de Théodore. Isabelle, nous sommes unis depuis 25 ans par ce fil invisible qui relie celles et ceux qui sont destinés à se rencontrer, indépendamment du temps, du lieu ou des circonstances. Un fil qui peut s'emmêler, s'étirer, sans jamais se rompre, car la véritable amitié est celle que l'on confond avec la famille. Ce fil se renforce avec ce rôle de marraine que je m'engage à assurer avec bonheur et humilité auprès de votre fils. Théodore, tu prends aujourd'hui une place particulière dans ma vie. Je te promets de t'accompagner, de te soutenir, de t'aider à trouver en toi, au milieu de l'hiver, un invincible été, à chaque fois que tu en auras besoin.
Mon cher Théodore, l'amour, l'épanouissement, la spiritualité sont des chemins que tu as commencé à parcourir déjà bien entouré, dans la joie et avec l'amour de ta famille. Aujourd'hui, ton baptême, cet instant marque une étape importante pour toi et pour nous. Je nous souhaite que tes joies deviennent de nombreux instants de partage, que tes apprentissages nous élèvent, que ta vision du monde nous transporte et que tes défis nous donnent la force de les relever avec toi, que ta joie éclaire nos regards. Si ma présence à tes côtés te donne la force et l'envie de gravir les montagnes, traverser les océans, d'admirer les horizons, de faire union avec la nature, de découvrir la richesse des hommes, d'aimer, alors tu feras de moi le plus heureux des parrains.
Alors Théodore, ça va être à nous maintenant. Viens avec moi, viens me voir. Regarde, on va aller voir tous ces gens qui sont dans cette église, regarde. Alors frères et sœurs, voici, je commence par ici parce que souvent on se plaint que dans le cœur on ne voit pas les petits. Alors là je vous l'amène là vraiment. Théodore, voici tes frères et sœurs, c'est une nouvelle famille en quelque sorte que tu découvres ici dans cette église. Vous avez donc un nouveau petit frère, vous assurez sa famille de votre prière, vous serez pour lui un soutien, vous serez pour lui sa nouvelle communauté de vie. Chaque fois qu'il aura besoin de vous, vous serez là pour lui. Si jamais il venait à se séparer de l'Église, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place, quelles que soient les circonstances. Ce sera ainsi pour lui le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Voilà, je vous présente Théodore. Et je pense qu'on peut, dès maintenant, prendre le cantique 204 pour célébrer ce moment que nous venons de vivre avec Théodore pour son baptême. Seigneur, dirige et sanctifie Théodore. Le 204. Alors, je ne vous ai pas présenté le grand frère qui a ouvert la voie dans la famille avec son baptême. C'est Georges qui est là et qui est venu me rejoindre parce que pour lui aussi, le baptême de son petit frère est très important. Voilà. Merci à vous tous pour ce beau moment. Je vais maintenant aller lire la Bible. Donc, je vais te rendre à tes parents quand même. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, alors j'ai choisi le texte biblique d'aujourd'hui et en concertation avec les parents de Georges et Théodore, suite à notre discussion en préparation de ce baptême. C'est dans Jean 3. Au verset 1 à 13. Il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, qui était chef des Juifs. Celui-ci vint vers Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu, maître. En effet, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit et lui dit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître en étant vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le ventre de sa mère et naître ? Jésus répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et de souffle, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né du souffle est souffle. Ne t'étonne pas si je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le souffle souffle là où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de chacun de ceux qui sont nés du souffle. Nicodème lui répondit en disant : Comment ces choses peuvent-elles advenir ? Jésus lui dit : Toi, tu es le maître d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous n'avez pas foi dans les choses terrestres que je vous ai dites, comment aurez-vous foi ? Si je vous parle des choses célestes, et personne n'est monté vers le ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Je vous invite à chanter ensemble le psaume dans les psautiers français, le psaume 107, les strophes 1 et 4. Et nous nous levons.
Jamais
Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ce témoignage qui nous vient de si loin et qui nous parle encore aujourd'hui. Merci pour ces mots qui nous invitent à une nouvelle naissance avec toi. Permets que nous soyons, Seigneur, des lecteurs et des auditeurs fidèles de ta parole au milieu des mots humains, des témoignages venus de loin. Amen. Comme Nicodème était venu discuter du baptême et de la nouvelle naissance avec Jésus, dans ce récit raconté dans l'évangile de Jean, c'est aussi un juif, professeur de sciences politiques, spécialiste des conflits religieux, Richard Rubenstein, qui vint un jour discuter avec un prêtre chrétien sur son projet de livre qu'il voulait intituler et qu'il a intitulé « Le jour où Jésus devint Dieu ». Je vous recommande ce livre. Il vint donc discuter avec ce prêtre et il lui dit « Une des raisons pour laquelle la querelle de l'arianisme, donc de la divinité de Jésus, m'intéresse, c'est qu'avant sa conclusion, les juifs et les chrétiens pouvaient encore se parler et discuter entre eux de problèmes cruciaux comme la divinité de Jésus, la signification du salut, les principes élémentaires de la morale, etc. Enfin, presque tout. Ils étaient violemment en désaccord sur bien des choses, mais il y avait encore entre eux une certaine familiarité. Ils participaient au même univers moral. Quand la controverse a pris fin, quand Jésus est devenu Dieu, cette familiarité s'est dissipée. Pour les chrétiens, le dogme de la Trinité définissait désormais la divinité de Dieu en trois personnes. Toute hérésie devenait un crime. Les Juifs étaient alors infidèles. Et ceux d'entre eux qui vivaient dans des pays chrétiens cessèrent de considérer la personnalité de Jésus et son message comme un thème de réflexion. Comme je le disais, Richard Rubenstein est juif et il a eu à souffrir dans son enfance de l'antisémitisme chrétien. Il raconte qu'un jour aux États-Unis, il sort dans son quartier qui était majoritairement composé d'immigrés italiens et qu'il sort un Vendredi Saint. Et là, évidemment, le prêche du Vendredi Saint avait été tellement virulent dans l'église que tous les petits enfants qui sortaient de là, le rencontrant, ont voulu régler leur compte avec ces juifs qui avaient tué Jésus.
Alors il raconte comment on lui est tombé dessus et comment on l'a battu pour lui faire comprendre la querelle qu'il y avait entre les religions. Et pour se sauver, le malheureux n'a trouvé qu'à dire « mais Jésus était juif ». Et là, évidemment, ça a empiré encore les choses. Donc il raconte très bien ça dans son livre, et il raconte toute cette querelle incroyable entre les disciples d'Arius et puis toute l'Église instituée par l'Empire de Constantin, qui ne voit pas d'un très bon œil qu'on vienne s'interposer entre eux et le peuple. Dans cette question, évidemment, Rubinstein cherche les violences et la racine des violences au nom du religieux. La querelle pour savoir de quelle nature était Jésus est sans doute le conflit religieux, dit-il, le plus important et le plus violent avant celui de la réforme protestante. Au début du IVe siècle, cette controverse sur la nature divine de Jésus ne fut pas seulement une controverse à coups de livres, d'écrits ou de discours. Cette controverse sur la nature de la divine de Jésus fut aussi l'occasion d'énormément de victimes en vue d'éradiquer la doctrine d'un certain Arius, prêtre de son état, et qui avait eu l'inconscience de soutenir contre les autorités ecclésiastiques en place que Jésus était certes une personne de rang élevé devant Dieu, mais qu'il lui était subordonné comme tout être humain l'est par rapport à son Créateur. Quelle importance, me direz-vous ? Nous avons tous les témoignages sur Jésus et nous pouvons croire à ce que nous voulons. Et pourquoi ne pas considérer les deux options possibles selon la foi des fidèles ? C'est que l'enjeu d'un tel dogme n'est pas seulement religieux, mais qu'il est aussi politique, et qu'il en allait de l'unité de l'Empire de Constantin autant que du pouvoir de l'Église chrétienne sur l'âme de ses sujets. On retrouve alors, autour de cette querelle pour savoir si Jésus est plus saint que les autres hommes ou Dieu descendu sur terre directement, on retrouve le florilège des émeutes populaires, des lynchages en place publique, des tentatives d'assassinat, des morts exposées et mutilées, que des siècles plus tard, on retrouvera autour de la question de la réforme protestante. Décidément, la religion donne souvent les mêmes violences. Un dogme vaut-il la vie d'un homme ? La question posée aujourd'hui dans les rangs de cette Église semblerait tout à fait déplacée, sans doute. Mais il n'en reste pas moins que les affirmations théologiques continuent aujourd'hui encore de servir les intérêts identitaires de nombre d'hommes et de femmes de pouvoir qui voient dans le christianisme une aubaine pour discriminer et trier les citoyens acceptables ou inacceptables dans notre pays, et entretenir les haines et les violences qu'on aimerait croire éteintes, mais qui ressurgissent sans cesse au gré des sursauts de l'histoire. Heureusement, nous avons des lois qui nous préservent de telles violences, mais il n'empêche qu'elles existent, et qu'il ne faudrait sans doute pas grand-chose pour qu'on versât à nouveau dans ces querelles musclées qu'a connues le IVe siècle. Au milieu de ce paysage d'instrumentalisation du religieux à des fins de pouvoir, le protestantisme dit libéral apparaît facilement, si l'on y regarde trop vite, comme une sorte de position d'abstention qui admettrait toutes les opinions religieuses comme des options possibles, sans jamais en défendre aucune, sans jamais ne défendre aucune doctrine. Mais ne nous y trompons pas et ne laissons pas une telle erreur proliférer sans y répondre. La pensée libérale en théologie ne revient pas à dire que si tout est discutable, tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Et quand on utilise Dieu à des fins de violence, cela n'a rien à voir avec une pensée théologique, cela a à voir avec une prise de pouvoir et de force. Le cœur de la fidélité n'est simplement pas placé au même endroit selon qu'on se situe dans une pensée théologique libérale ou une pensée dogmatique. Pour la pensée libérale, l'essentiel est, comme le dit Richard Rubinstein, de pouvoir garder ouverte la question que l'humanité ne peut pas trancher par un savoir. Et comme le fait la théologie juive, de continuer la discussion et le dialogue sans jamais les fermer. Remettre sur le métier toujours les études de la Bible et remettre même le canon biblique sur le métier pour regarder ce qu'on a conservé ou ce qu'on a exclu et quels sont les héritages dont nous pouvons nous servir pour comprendre mieux ce qu'on nous a transmis. Voilà le travail que nous avons sans cesse à faire sans jamais décider définitivement qu'il faut croire une chose ou une autre. C'est le cas de toutes les questions qui touchent au divin, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Comment pourrait-on affirmer que l'on a raison sur ces questions, contre l'autre ? Que Jésus soit divin ou humain reste une question parce que tous les croyants ne considèrent pas Jésus de la même façon selon la lecture qu'ils font des Écritures. Et c'est une question passionnante, à condition qu'on ne soit pas mis en demeure d'y répondre définitivement en enfermant Jésus dans un rôle précis. Jésus fut un homme, c'est une chose certaine, mais la part de divin en lui peut toujours se discuter. Qu'entend-on par divin ? Ainsi, se tenir sur la ligne de crête en refusant d'adhérer à une doctrine plutôt qu'à une autre ne revient pas à s'abstenir de toute réflexion ni à manquer de courage intellectuel, mais relève d'un véritable exercice d'équilibriste entre ce que l'on croit et ce que l'on peut raisonnablement penser d'une question. La facilité serait de trancher la question, et certains ont même tranché des têtes pour ça, pour évincer les contradictions et les contradicteurs. L'exigence théologique, elle, requiert de la part de ceux qui s'y soumettent de tenir ensemble la raison et la foi. Mais ce qui est de l'ordre de la foi ne peut pas s'imposer aux autres. Alors faut-il renoncer à défendre ses positions quand on est protestant libéral ? Sûrement pas. Au contraire. Mais ces positions ne valent que si elles rendent compte de la complexité des questions qui les ont suscitées. La notion de fils de Dieu n'est pas née avec le christianisme, elle existait déjà. Et cette filiation peut être interrogée de diverses manières. Jésus est-il par nature le Fils de Dieu, le Père ? L'est-il par l'esprit d'adoption qui le relie au Père ? L'est-il par sa foi seule qui fait que dans sa foi il est Fils de Dieu ? Mais si un pouvoir déclare que tous nous devons croire de la même manière et exclut les autres possibilités, alors là commence la violence. Quand l'évangile de Jean raconte un entretien entre Jésus et Nicodème, il rend compte d'une querelle très violente entre les pharisiens et les disciples du Christ, qui se sont séparés, qui se sont exclus les uns les autres. Et cette violence se ressent même dans la provocation de Jésus à l'égard de Nicodème. Toi, tu es le maître d'Israël et tu ne connais pas ces choses, lui dit-il d'un ton ironique. Ce récit rend compte non pas d'un dogme, mais d'une tentation toute humaine de défendre sa foi comme la seule valable. En l'occurrence, Jésus croit en l'histoire du salut telle qu'on lui a transmise par les prophètes. Et pourtant, ce sont les mêmes prophètes que connaissent les pharisiens et les deux ne sont pas d'accord. Des prophètes à qui Dieu a donné son souffle, comme le prophète Élie, qui, après avoir exterminé 450 prophètes de Baal quand même, avec une violence incroyable, entend la voix de Dieu dans un souffle ténu. Cet esprit, que j'ai traduit dans le texte par souffle, pneuma, ce souffle dont on entend la voix mais dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, n'est pas tant une des trois personnes du dogme de la Trinité que l'intervention divine au cœur de la vie des hommes et dont seuls ceux qui l'entendent peuvent rendre compte. Et peu importe si nous ne déclarons pas définitivement que Jésus est Dieu ou qu'il est homme, comme s'il devait absolument être soit l'un soit l'autre sans qu'il y ait aucun mélange, peu importe si nous ne pouvons pas trancher cette question. Dans cette discussion avec Nicodème, il est celui qui croit que, à la suite d'Élie et de Moïse, dont il parlera après, il doit apporter une parole de salut à ses contemporains et que sur la violence, il y a une voix ténue qui peut inspirer les hommes, un esprit qui vous change de l'intérieur et dont vous ne pouvez pas forcément rendre compte parce que vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Les évangiles ont façonné un Christ à partir d'un homme. Mais qu'en est-il de la foi de cet homme nommé Jésus? N'était-il pas lui aussi sur cette ligne de crête où chaque parole, chaque action risquait de le faire tomber dans la violence ordinaire, des doctrinaires? N'est-ce pas là le sens de la tentation au désert? N'avait-il pas le choix de prendre le pouvoir sur tous les autres et imposer ses vues? Quel dialogue avait-il dans l'intimité de sa foi avec celui qu'il reconnaissait comme son père? N'était-ce pas pour lui aussi davantage une discussion ouverte plutôt qu'une affirmation définitive? Jésus, le croyant, a fait de nous des frères parce qu'il a vécu sa foi devant Dieu comme s'il était son fils, le fils de Dieu. Bien sûr, il ne disait pas de lui-même qu'il était fils de Dieu au sens d'une nature divine, mais les autres l'ont reconnu en lui. Sa foi, inscrite dans la foi de ses ancêtres et de tout un peuple avant lui, utilisait cette image du Père qui aime ses enfants, de la mère qui couve ses petits, et cet amour-là est sans doute ce qui guida ses pas plus sûrement que toutes les doctrines auxquelles on voulait qu'il adhère. Ce que nous dit l'évangile de Jean derrière tous les règlements de compte que cet évangile contient réellement, c'est que la foi nous fait devenir enfants de Dieu et que c'est une nouvelle naissance parce que les conditions de notre existence même dépendent de la foi que nous mettons en ce divin, infiniment plus grand que nous, et qui nous appelle à être hors des doctrines qui limitent nos actes et oblitèrent notre espérance. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui, dit Nicodème à Jésus. Avec Jésus, nous pouvons oser annoncer le salut à notre monde, c'est-à-dire aimer notre prochain comme lui a essayé de le faire, parce qu'il était homme dans ce monde et qu'il avait cette part divine en lui. Annoncer la justice comme lui l'a fait, même au péril de sa vie, soigner et même mettre tout en œuvre pour que pour la guérison de ce qui défigure nos corps ou de ce qui fait souffrir le psychisme, inventer des sociétés où la misère recule et où celui qui devient pauvre est aidé et remis en route, annoncer la grâce sur une humanité imparfaite qui n'a que faire de la perfection divine si elle lui était inaccessible, mais qui veut croire que le salut est promis dans toutes nos failles par la figure d'un homme qui a vécu sa foi comme une éthique de vie. Voilà ce que l'humanité de Jésus a partagé avec nous. Voilà ce que la part de divin qui était en lui lui a inspiré. Voilà la part de divin qu'il a insufflée dans nos finitudes par sa présence et son discours. Alors, quand nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit un petit garçon qui s'appelle Théodore, cadeau de Dieu, ce n'est pas au nom d'un dogme de la Sainte Trinité qu'il faut défendre contre l'humanité même, mais au nom d'un homme à la suite duquel des hommes et des femmes ont cru que Dieu les aimait au-delà des dogmes. L'homme Jésus ne peut devenir le Christ pour nous, le Sauveur, que s'il nous apprend à dépasser la violence en reprenant sans cesse la discussion à laquelle l'intelligence nous oblige. Cette intelligence dont nous devons aimer de tout notre cœur Dieu. Jésus est prophète dans tous les monothéismes et c'est une chance extraordinaire qu'il ait été reconnu partout, évidemment à condition qu'on n'en fasse pas un Dieu. Et même si certains se sont entretués pour défendre sa divinité, je dirais avec Richard Rubenstein que, comme il l'écrit dans son livre, d'une certaine façon, je crois que la figure de Jésus jouera un rôle important dans ce dépassement de la violence. Je pense que sa vie nous enseigne ce que cela signifie vraiment que d'être membre d'une même humanité. Amen. Je vous invite à chanter dans les louanges et prières le cantique 297, Ô Dieu des grâces éternelles. Et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces. Voilà, et c'est Juliette, notre trésorière, qui va partager les annonces avec nous aujourd'hui.
Merci Béatrice. Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci du fond du cœur d'avoir choisi l'oratoire du Louvre aujourd'hui. Nombre d'entre nous sommes présents pour la première fois et merci encore d'avoir choisi l'oratoire ici présent ou à distance devant votre écran. Le temps des annonces, c'est le temps aussi où on vous communique le programme des activités de l'oratoire. Alors pour être parfaitement informé, la bonne solution c'est de s'abonner à la newsletter hebdomadaire à partir du site de l'oratoire qui s'intitule oratoiredulouvre.fr. Vous allez tout en bas de la page d'accueil et vous indiquez votre adresse électronique et vous êtes abonné. Alors, je peux donc vous indiquer qu'en effet, donc, nous organisons soit des moments hebdomadaires, des rendez-vous hebdomadaires ou des rendez-vous mensuels. Et mardi prochain, le premier mardi du mois, un culte d'intercession vous sera proposé par Béatrice, suivi d'un donc, moment de partage biblique. Jeudi, de 12h30 à 13h30. Ce sera la pause spirituelle conduite par Agnès Adeline Schaeffer. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur un événement donc mensuel qui sont les concerts spirituels de l'oratoire, un samedi donc par mois à 16h et le prochain se tiendra le 12 février. Également un autre événement mensuel qui est vraiment très agréable, c'est de participer et de rejoindre le chœur de l'oratoire du Louvre. Pareil, donc une fois par mois, le samedi 12 février, le matin, donc à la maison presbytérale, pour préparer les cantiques qui seront chantés le lendemain avec le chœur. Voici pour l'essentiel des annonces, encore une fois, abonnez-vous à partir du site de l'oratoire du Louvre. Donc, après les annonces, c'est le moment de l'offrande. Donc, vous avez à votre disposition les aumônières classiques pour déposer vos espèces ou les chèques à l'ordre de l'apérole, ou encore un panier connecté pour les dépôts avec les cartes sans contact. Merci beaucoup. Très bon dimanche.
Frères et sœurs, nous allons partager maintenant le pain et le vin de la scène. Aussi, nous nous mettons devant Dieu pour partager ces prières qui nous invitent à ce partage. Un jour, au milieu de nous, il y eut un homme comme nous, qui vécut et mourut comme nous. Un homme qui éprouva la peur, la colère, la confiance et la joie, comme nous. Cet homme est le langage par lequel, toi, notre Dieu, tu as adressé au monde la bonne nouvelle de ton amour inconditionnel. Cet homme est un signe de ta grâce pour nous aujourd'hui et pour ce don que tu nous fais. Nous te disons merci. Et nous chantons ta gloire. Et nous prendrons maintenant le réponse de la scène après la préface. Par toi pour une fête. Et nous restons à nos places.
Thank you.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Père, au moment où nous partageons ton repas, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Nous recevons de toi ce repas, nourriture pour ce monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toute chose nouvelle dans nos cœurs et dans le monde.
Seigneur, nous te prions pour Théodore et sa famille, que ce baptême accompagne leur vie de tous les jours. Seigneur, que ton règne vienne dans leur quotidien. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui croient, qu'ils appellent Dieu Allah, Adonai, ou qu'ils le reconnaissent dans l'eau, les pierres ou le feu, qu'ils ne confessent aucun Dieu ou qu'ils s'attachent à des préceptes de sagesse. Nous te prions pour que toutes ces formes de foi se rejoignent quand il s'agit de l'homme et du respect de la vie. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'osent pas demander d'aide, qui vivent leurs difficultés seuls, sans voir d'issue à leurs problèmes. Seigneur, pour eux aussi, que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont victimes de la bêtise, dans leur travail, dans leur famille ou dans tout autre lieu. Aide-les à ne pas céder à la bêtise et à la tenir pour ce qu'elle est. Seigneur, dans ces lieux-là, que ton règne vienne. Pour les malades, les prisonniers, tous ceux qui sont endeuillés, tous ceux qui attendent un réconfort et le salut que tu promets dans leur quotidien, Seigneur, pour eux tous, que ton règne vienne. Et ensemble, nous pouvons prier avec la prière que le Christ a apprise à ses disciples, et nous nous levons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Thank you.
Nous allons partager le repas du Seigneur. Vous êtes évidemment tous conviés à ce repas du Seigneur par notre Seigneur. Je vous invite à rester à vos places en étant debout le temps que nous puissions passer vous donner ce pain et ce vin, parce que nous sommes encore dans des restrictions sanitaires qui nous obligent à procéder de cette façon. Et nous allons maintenant rompre le pain ensemble en mémoire du repas du Seigneur.
Voici le pain de vie que nous partageons, signe visible de la communion au corps du Christ.
Voici la coupe de l'Alliance pour laquelle nous rendons grâce, signe visible de la communion au sang du Christ.
Thank you.
Seigneur, merci pour ce repas que tu nous as donné aujourd'hui et que nous avons partagé au nom de ton amour, au nom de ce que tu nous fais connaître dans les témoignages des Écritures. Merci Seigneur pour ce partage. Frères et sœurs, ce temps était le temps d'une halte où nous avions vécu ensemble des choses merveilleuses, des choses très belles pour notre cœur et notre vie. Mais maintenant, il va falloir aller l'annoncer au monde qui nous entoure. Il va falloir que cette joie profonde que nous avons partagée ensemble irradie dans ce monde. Alors, il est temps de vous envoyer, aller dans le monde avec la parole du Christ, avec cette figure de paix ancrée en vous. Aller dans le monde avec l'esprit ouvert, le sens de la conversation et du dialogue. Aller dans le monde avec le Verbe qui s'est fait chair. Recevons la bénédiction de Dieu.
Frères et sœurs, allez annoncer l'Évangile de ce monde, proclamant la grâce de Dieu. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.